c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, en el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulomiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur ce continent, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine.
Bonjour.
Bonjour, Antoine. Toujours fidèle au poste. Et cette semaine, nous avons choisi de vous présenter un documentaire qui a été diffusé par la chaîne Arte. Donc, je vous invite à parcourir la Cordillère des Andes, n'est-ce pas, Antoine?
Bienvenue sur la Cordillère des Andes, qui longe toute l'Amérique du Sud, traversant 7 pays, du Venezuela à l'Argentine, l'Amérique latine, ce sous-continent américain, souvent relégué au second plan de l'intérêt médiatique mondial, auquel nous avons décidé de nous intéresser aujourd'hui avec 3 objectifs. Mieux connaître la diversité des pays et des paysages de cette région du monde, comprendre ce qui est au-delà du terme Amérique latine, unit ou sépare ces différents États, en posant la question d'une éventuelle identité géopolitique latine et au-delà, nous interroger sur les forces et les faiblesses d'un sous-continent qui, au cours de l'histoire, semble ne jamais parvenir pleinement à échapper aux influences et ingérences étrangères. Sortons nos cartes. L'Amérique latine, c'est cet immense territoire qui s'étend du Mexique en Amérique du Nord à la Terre de Feu à l'extrême sud de l'Argentine et du Chili. Soit au total 20 États indépendants qui ont en commun de parler des langues romanes, dérivées du latin. L'espagnol est ainsi la langue la plus parlée, suivie du portugais et enfin du français, si on englobe aussi Haïti. Tout au long de cette vaste étendue de près de 20 millions de kilomètres carrés, l'Amérique latine abrite une grande variété de paysages. Des terres arides au nord du Mexique ou dans le désert du Chili, aux forêts humides en Amazonie et dans une partie de l'Amérique centrale. Le territoire est aussi façonné par de gigantesques barrières naturelles. Ainsi, la cordillère des Andes, l'épine dorsale du sous-continent américain, tout comme la forêt amazonienne, ralentit ses structures, l'occupation de la population, qui est répartie de façon très inégale entre des territoires quasiment vides, comme en Amazonie ou à l'extrémité du continent, en Patagonie, et des grandes villes situées principalement dans les zones côtières. L'Amérique latine compte ainsi près de 670 millions d'habitants qui vivent à plus de 80% en milieu urbain. 6 mégalopoles sont parmi les plus grandes au monde, avec en tête Mexico et Sao Paulo. Le Brésil et le Mexique, avec respectivement 215 millions et 130 millions d'habitants, sont ainsi les 2 poids lourds démographiques et concentrent à eux seuls plus de la moitié de la population du continent latino-américain. Le Brésil est l'un des pays les plus étendus du monde, ce qui contraste avec le Salvador, 425 fois plus petit. Le Brésil est aussi la 9e puissance économique mondiale et domine la région. L'accès aux océans des États et donc leur connexion au monde crée également d'importantes inégalités. La Colombie dispose ainsi d'une double façade maritime quand le Paraguay et la Bolivie sont totalement enclavés. L'absence d'accès direct à la mer est un frein au développement économique Et la Bolivie, par exemple, affiche l'un des PIB par habitant les plus faibles de la région. L'Amérique latine est donc marquée par de fortes disparités territoriales. Et pourtant, elle est le fruit d'une histoire commune qui a contribué à forger l'image d'un bloc uni qui pourrait peser sur la scène internationale, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le terme « Amérique latine » est une construction politique qui s'est développée en France au XIXe siècle, sous le Second Empire de Napoléon III. L'objectif est alors de vanter les mérites de pays qui partagent une même culture, latine et catholique. Il s'agit ainsi de faire contrepoids aux États-Unis d'Amérique, protestants et anglophones, et donc de contrer l'influence de Washington. Ces territoires ont en effet en commun d'avoir été des colonies espagnoles et portugaises, mais aussi d'avoir obtenu leur indépendance dans un même mouvement. En moins de deux décennies, entre 1810 et 1825, les élites latino-américaines, baignées par les idéaux émancipateurs de la philosophie des Lumières, réussissent en effet à se libérer des empires coloniaux. Dès cette époque, sous l'impulsion notamment du héros indépendantiste Simon Bolivar, se développe l'idée d'une union politique entre certaines de ces nouvelles nations. Objectif, assurer la sécurité et préserver la jeune et fragile indépendance des tout nouveaux États d'Amérique latine. Mais face aux rivalités internes, ce grand projet d'unité régionale restera lettre morte. Le rêve de Simon Bolivar de constituer un bloc unique face au reste du monde perdure encore aujourd'hui chez certains dirigeants latino-américains. Ainsi, c'était le projet phare de l'ancien président vénézuélien, le socialiste Hugo Chavez, qui aurait rêvé d'assurer le leadership du sous-continent. Si l'Amérique latine a été perçue comme un ensemble homogène qui pourrait jouer un rôle diplomatique, c'est aussi parce qu'elle a été le théâtre de trajectoires politiques communes tout au long du XXe siècle. Après les régimes autoritaires et les dictatures militaires des années 60-70, la démocratie s'est progressivement installée dans les années 80-90. Le sous-continent amorce ensuite un virage à gauche, avec entre autres l'accession au pouvoir d'Hugo Chavez au Venezuela en 1998, de Lula au Brésil en 2002, des époux Kirchner en Argentine à partir de 2003. Mais derrière son apparente monochromie politique, les désaccords sont fréquents et cette gauche plurielle ne parvient pas à parler d'une même voix sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'élection de Javier Milei à la tête de l'Argentine fracture une nouvelle fois l'Amérique latine et constitue un frein aux tentatives de relance active d'intégration régionale impulsées par le Brésil de Lula depuis son retour au pouvoir en 2023. Gangrénée par une instabilité politique chronique et des rivalités hégémoniques, l'Amérique latine a du mal à peser dans la diplomatie mondiale. Après avoir réussi à s'émanciper des puissances coloniales européennes, on l'a vu, le sous-continent a ensuite vécu la domination et l'omniprésence des États-Unis, reléguant l'Amérique latine au second rang des affaires internationales. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'Amérique latine a longtemps été marginalisée par le grand voisin états-unien. Les États-Unis ont ainsi considéré le sous-continent latino-américain comme leur arrière-cour en s'octroyant un droit de police sur l'ensemble du continent américain. C'est ce que l'on appelle la doctrine Monroe. Cette domination atteint son paroxysme lors de la guerre froide. Washington interfère ainsi dans les régimes politiques pour endiguer la montée du communisme avec le débarquement raté d'opposants à Fidel Castro dans la baie des Cochons à Cuba en 1961. Mais aussi pour défendre ses intérêts stratégiques avec des interventions militaires, comme au Guatemala en 1954 ou au Panama en 1989. Dans ce pays, cette politique impérialiste passe aussi par une tutelle économique du stratégique canal de Panama, passage vital entre l'océan Atlantique et Pacifique, que Washington n'a consenti à rétrocéder à l'État panaméen qu'en 1999, après près d'un siècle de mainmise des États-Unis. Aujourd'hui, l'Amérique latine reste toujours très dépendante économiquement du géant américain. Les États-Unis s'y fournissent en matières premières et en produits agricoles et y exportent des produits à haute valeur ajoutée. Mais ce prix carré est aujourd'hui ouvertement concurrencé par la Chine. En quête de minerais stratégiques comme le lithium ou le cuivre, Pékin renforce d'année en année sa présence économique dans la région. En 2022, une dizaine d'États, comme le Chili, la Bolivie ou le Pérou, ont même signé un accord de coopération pour intégrer l'ambitieux projet des routes de la soie. Ces fortes dépendances vis-à-vis des géants américains et chinois fragilisent l'Amérique latine. En effet, la région a développé un modèle agricole ultra-intensif, vulnérable aux aléas des cours des matières premières et une faible industrialisation. Conséquence, un retard de développement économique, 30% de la population qui vit en situation de pauvreté. Par ailleurs, la violence et le trafic de drogue sont endémiques, avec des saisies records de cocaïne en Colombie ou en Équateur. Et pourtant, malgré ses multiples handicaps, l'Amérique latine a des atouts non négligeables pour peser sur l'échiquier mondial. Voyons lesquels. C'est d'abord le continent dit de la paix longue. Il n'a pas connu de guerre entre ses membres depuis 1935. Il s'agissait de la guerre du Chaco entre le Paraguay et la Bolivie. L'Amérique latine dispose également d'un atout géostratégique en constituant un point de passage névralgique entre l'Asie et l'Europe. En 2021, 5% du commerce maritime mondial a ainsi transité par le canal de Panama. Côté diplomatique, le Brésil fait partie des BRICS, avec la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Rejoint par 4 nouveaux pays en 2024, on parle des BRICS+. Aujourd'hui, le président brésilien Lula ambitionne toujours de faire entendre une voix différente, celle des pays du Sud, qui ne s'aligneraient sur aucun bloc, ni occidental, ni russe ou chinois. Une neutralité ambiguë aux yeux de Washington, qui permettrait surtout au Brésil de maintenir de bonnes relations avec le régime de Poutine et ainsi de défendre ses intérêts économiques. Plus consensuelles, les questions environnementales sont aujourd'hui au cœur d'un activisme diplomatique latino-américain. Avec ici en orange les zones qui abritent des écosystèmes parmi les plus riches du monde, ainsi que la forêt amazonienne. Désormais, l'Amérique latine est plus que jamais consciente de la nécessité de défendre cet enjeu majeur du XXIe siècle sur la scène internationale. Voilà pour ce voyage en Amérique latine, sa diversité, ses forces, mais aussi ses faiblesses. On a démarré cette émission sur la cordillère des Andes. Finissons-la dans la forêt amazonienne, traversée par 9 pays du sous-continent, forêt vitale pour les réserves de carbone de la planète, pour la biodiversité, pour ses populations autochtones qui y vivent, mais une forêt de nouveau sous les flammes ces derniers mois, du fait d'incendies criminels déclenchés notamment par des propriétaires agricoles qui veulent augmenter leur surface cultivable, mais aussi, bien sûr, du fait du réchauffement climatique.
Voilà donc ces documents diffusés par Arte que nous avons eu la chance de diffuser sur RLP, Radio Libre en Périgord, sur notre émission L'autre Amérique, en compagnie de Béatrix et d'Antoine. Riche d'une histoire mouvementée et composée d'une multitude d'identités, on a parlé d'identité aussi, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, bien sûr.
L'Amérique latine fait face aujourd'hui à de nombreux défis. Donc, nous allons parler justement, quand on a parlé d'interventionnisme des États-Unis dans notre continent.
Oui, d'après Pierre Vessière, qui est professeur à Toulouse, non ? Qui était professeur à Toulouse. L'hégémonie et les interventions nord-américaines au sud du Rio Grande. Le 2 décembre 1823, le président états-unien James Monroe lançait sa déclaration devant le Congrès. Aucune puissance européenne ne pourrait plus désormais établir un protectorat en Amérique latine et aucun régime monarchique ne pourrait s'y installer. Cette doctrine, Monroe, allait constituer le fil directeur de toute la diplomatie nord-américaine jusqu'à nos jours, même dans ses variantes les plus inattendues. Sous le prétexte de protéger des colons nord-américains installés en territoire mexicain, les États-Unis s'emparèrent du Texas en 1845, de la Californie, de l'Arizona et du Nevada en 1848. Si ces annexions arrachées par la force permettaient aux États-Unis d'aligner leurs frontières méridionales sur le Rio Grande, elles amputaient le Mexique de plus de la moitié de son territoire initial. Durant un bon tiers de siècle, les États-Unis vont intervenir avec force en Mésoamérique, de plus en plus considérée comme une arrière-cour, une zone de liaison vitale entre l'Est et l'Ouest des États-Unis. Le vieux slogan défensif « l'Amérique aux Américains » était actualisé par des formules nouvelles comme « l'Amérique aux Nord-Américains », un avertissement adressé aux puissances européennes.
Émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler, Béatrice, de...
La suite de l'interventionnisme.
Voilà.
Theodore Roosevelt, secrétaire à la marine, avant de devenir président en 1901, se présentait comme un ardent nationaliste, partisan de la manière forte, face aux états turbulents de la Mésoamérique. Sa doctrine fut baptisée « politique du gros bâton ». Suite à un discours en 1903 à Chicago. Parlez doucement et prenez un gros bâton avec vous. Vous irez loin. C'est d'après un proverbe africain. Ses successeurs n'hésitèrent pas à organiser des opérations de police internationales dans cette région troublée de la Mésoamérique. La politique agressive des États-Unis s'est manifestée sous la forme de deux interventions spectaculaires, à Cuba en 1898, puis à Panama en 1903, avant de s'appliquer de façon continue dans l'exercice d'un droit de police internationale dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Dans cette arrière-cour défensive, les États-Unis ne toléraient aucun désordre qui pût troubler la navigation ou les échanges commerciaux, surtout après l'ouverture du canal de Panama en 1914. Cette politique interventionniste se vérifie à des degrés divers au Mexique, dans les Antilles et en Amérique centrale. L'impérialisme nord-américain avait déclenché un vaste courant de Yankee-phobie à travers toute l'Amérique latine.
Oui, d'autant plus qu'on n'en parle pas trop dans ces documents d'Arte sur l'interventionnisme. On indique quelques pays, mais n'oublions pas que les États-Unis ont intervenu en Argentine, au Chili. Je connais très bien cette situation, avec la chute d'Allende aidée par la CIA, états-unienne. Ils ont intervenu au Brésil. Donc, on parle d'impérialisme, et je pense qu'avec Trump, ça va continuer. C'est pour cela que on préfère écouter la musique. We'll be right back. Para bailar, oui, para bailar au rythme latino sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler de
Simon Bolivar.
Voilà.
D'après le livre « Insurgés et visionnaires d'Amérique latine » d'Arturo Uslar Pietri aux éditions Critérion à Paris. Bolivar fait partie à divers titres des quelques grandes figures de l'humanité. Depuis sa mort en 1830, on a découvert à quel point sa présence était forte. Pour ses contemporains, il était le champion de la lutte pour l'indépendance politique de l'Amérique latine. Il était cet individu qui, sans moyens, confronté à tous les obstacles et dans les pires adversités, avait dirigé cette guerre de 15 ans qui devait mettre fin à l'Empire espagnol d'Amérique. Sa ténacité, sa conviction de la conquête de cette indépendance, sa vision de l'avenir du Nouveau Monde l'ont distingué parmi tant d'autres chefs révélés par la guerre d'émancipation de l'Amérique latine. Pour le monde occidental, Bolivar est devenu le symbole de la lutte contre les despotismes et les vieilles monarchies. Son nom avait les accents de liberté. Les révolutionnaires de 1830 et 1848, la jeunesse romantique, invoquaient tous son nom et son exemple. Bolivar était devenu pour toujours le libertador, l'homme qui avait incarné l'exigence de liberté de tout un continent et qui s'était efforcé de créer un ordre politique où régnerait la justice et les droits de l'homme.
Soy hermano de la Rosa, oui, ça c'est typiquement vénézuélien, comme Bolivar. Mais nous allons parler on a parlé sur le documentaire de Arte de la cuillère des Andes, n'est-ce pas Béatrix?
Ah oui, donc je continue. L'immense cordillère des Andes à ses extrêmes caraïbes et patagoniens émerge au Venezuela et en Colombie, passe l'Équateur. S'étire tout au long du Chili, culmine en Argentine et meurt après un parcours de 7500 km au Cap Horn. Cette grande traversée nord-sud de sept États révèle un assemblage stupéfiant de forêts, de neiges éternelles, de volcans, de déserts de sel. Terre de feu et de châteaux d'eau où l'homme indien a su cultiver des terrasses en haute altitude et l'homme blanc construire les chemins de fer les plus élevés du monde. Au Pérou, le train Lima-Huancayo. L'altitude élevée des Andes est une constante qu'aucune autre chaîne de montagne au monde ne réalise sans rupture. L'opposition des versants occidentaux et occidental et oriental, comme les effets climatiques de la latitude, ont créé une succession de paliers entre lesquels les hommes ont d'implanter des réseaux d'échanges. Les villes de la cordillère se sont nichées à une altitude où commence en Europe un désert minéral inhabité. Cités perdues, cités minières en léthargie, marchés régionaux toujours animés, anciennes ou nouvelles capitales. Connaître les Andes, c'est aussi faire le tour de ces agglomérations altières qui furent ou qui sont encore les centres nerveux du monde sublime de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud.
Merci, merci Béatrice. J'avais dit dans le temps, quand je suis arrivé en France, que j'ai regardé où était la cordillère des Andes. Parce qu'à Santiago du Chili, on la voit tout le temps avec des neiges éternelles. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir skier dans la cordillère des Andes. Donc, quand on parle de la cordillère des Andes, je m'en connais un peu. Voilà donc ce qu'on peut parler de la cordillère des Andes. Notre émission L'Autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous bientôt, pas la semaine prochaine, parce que c'est les fêtes.
Les fêtes, en 2025.
Voilà.
Ça sera en 2025.
Donc, nous vous souhaitons, l'Amérique latine souhaite à tous les auditeurs de la Dordogne et d'ailleurs, bonne année, bonne fête de fin d'année. Et merci à Béatrice qui nous a livré des infos tout au long de cette année 2025. Merci à Antoine, fidèle au poste, très compétent comme d'habitude. Il met juste la musique quand il faut. Et bon, muchas gracias, feliz año nuevo, hasta pronto.